Le journal de la culture, Matteo Caranta.
Matteo.
Bonjour Benoît.
Au menu de votre journal de la culture, des écrivains, un maestro, la forêt amazonienne et le Louvre. Le Louvre qui aurait masqué au ruban adhésif le nom des mécènes liés au scandale des opioïdes aux États-Unis.
Absolument. La famille Sackler, devenue l'ennemi numéro un dans la crise des opiacés aux États-Unis, a disparu des murs de l'aile des antiquités orientales, baptisée Elle Sackler depuis 1996. Cette famille, dont la fortune est estimée à 13 milliards de dollars, est connue pour son financement généreux de quelques-uns des plus grands musées du monde. Le Tate Modern à Londres, le musée Guggenheim à New York ou le Louvre à Paris. Mais ce nom est aussi entaché par un scandale sanitaire sans précédent dans l'histoire américaine. L'oxycontin, un antidouleur à base d'opioïdes produit par leur laboratoire, serait à l'origine, entendez-moi bien, de 50 000 décès par an aux États-Unis dans une crise qui compte le nombre de morts liés à une trop grande dépendance aux opioïdes en centaines de milliers. Au printemps, le Tate Modern et le musée Guggenheim avaient annoncé qu'ils refuseraient toute future donation de la famille Sackler. Et le 1er juillet, des associations américaines avaient manifesté devant le Louvre pour qu'il en fasse autant. Le président du Louvre, Jean-Luc Martinez, invité hier sur RTL, a déclaré que ces salles ne portaient plus de fait le nom de Sackler puisque celles-ci sont baptisées pendant 20 ans au maximum. Une controverse qui pose la question de l'art washing. Comme pour l'éco-blanchiment, l'art washing consiste à laver sa réputation par le biais de généreuses fondations. Un outil de communication très utile pour de grands groupes pétroliers décriés ou des entreprises pharmaceutiques, comme c'est le cas ici avec le cas Sackler. Ce retrait est peut-être une bonne nouvelle puisque les musées toujours plus dépendants des financements privés s'en lavent généralement les mains.
Toujours au musée, Matteo, l'Amazonie est présente dans trois expositions cet été.
Oka Amazonie à Toulouse, le chaman et la pensée de la forêt à Nantes, et nous les arbres à la fondation Cartier s'attachent toutes au poumon de la planète. Au cœur de ces projets, la mise en valeur des peuples amérindiens par leur culture, leur art, leur parole et leur rapport à la nature, aux arbres, à la déforestation galopante. À la fondation Cartier, qui présente un parcours plus général sur les arbres, des encres sur papier d'artistes Nivaclé et Guarani dessinent un magnifique univers animiste. À Nantes, on peut entendre les contes chamaniques Yanomami ou Shuar révéler les secrets de la danse avec les esprits. À Toulouse, on peut écouter enfin de jeunes musiciens amazoniens rapper comme Kunumi MC qui appelle à la reconnaissance et à la protection des territoires indiens.
Tem que ter fé, nego, porque nela que estão as nossas forças. Tem que querer, querer lutar pelo povo e ser o que é na multidão. Você não é o melhor, mas pode agir como ela. Sempre com humildade, raciocínio consciente. Grave isso em sua mente. Passo fazendo rap, cantando, rimando, pedindo.
Trois expositions à voir tout l'été, donc à Nantes, à Paris et à Toulouse. Autre actualité de ce journal, Matteo, c'est la mort du maestro du polar, Andrea Camilleri, père du giallo à l'italienne.
A 93 anni, in questo silenzio che si sta creando dentro di me, mi è venuta la voglia non di capire, perché sarà assai difficile capirla, ma intuire cosa possa essere l'eternità.
Dans ce silence qui grandit en moi, il m'est venu le souhait non pas de comprendre, mais de percevoir ce que pourrait être l'éternité. Ces mots d'Andrea Camilleri pourraient être ceux du commissaire Montalbano, personnage principal et alter ego de l'écrivain, auteur de plus de 100 romans traduits dans une trentaine de langues. Dans un italien pétri de dialectes siciliens, Camilleri écrivait des polars en forme de fable, portant plus sur les travers de la société italienne que sur l'enquête en elle-même. Mafia, corruption et crise migratoire sont au cœur de son œuvre, qui devient un genre, le giallo. Autre signe distinctif, les longues et succulentes descriptions culinaires de l'auteur, pleines d'autodérision, qui rendent le sombre commissaire Montalbano essentiellement sympathique.
Pour clore ce journal de la culture, et comme tous les jours de la semaine, vous nous emmenez, Matteo, sur la route des festivals, aujourd'hui direction La Baule, avec les écrivains en bord de mer.
La 23e édition de ces rencontres aborde le thème de la catastrophe. La catastrophe inspirée du roman Les Enténébrés de Sarah Chiche. Catastrophe climatique, mais aussi sociale ou personnelle qui questionne les écrivains. Son directeur Bernard Martin revient sur la place des écrivains pour raconter le monde.
La place qu'ils ont aujourd'hui n'est plus celle qu'ils ont eue par le passé, du temps de Sartre. Leur parole n'est plus considérée comme elle a pu l'être. Mais à lire les livres, à lire leurs livres, je pense donc aux livres de Sarah Chiche, d'Arnaud Bertina ou même d'Emmanuel Ruben. Voilà, il faut quand même les entendre. Alors dans ces ouvrages, on voit des réflexions plus pointues, plus saignantes finalement que dans les débats publics qu'on peut entendre ici ou là dans les médias. L'écriture, c'est quand même un lieu intime de réflexion. C'est souvent le fruit d'un travail, d'une documentation, et puis tout ça avec les élans de la fable, les élans du roman ou du poème. Mais c'est quand même, il y a là une acuité qui me semble très profonde et qu'il faut faire entendre.
Faire entendre cette acuité, ce sera également l'objet d'une discussion ce soir entre le grand poète américain Charles Benstein et Arnaud Bertina qui se poseront la question de comment conjuguer l'engagement politique avec l'engagement poétique ou littéraire.
Merci Matteo Caranta. Les écrivains en bord de mer, c'est à La Baule jusqu'au 21 juillet.